Bonjour à tous, je suis Caroline Just, je suis l'invitée aujourd'hui de Charlène et Geneviève pour Hiring Stories.
Question pour le prochain ou la prochaine invitée.
On a vu beaucoup de changements au niveau du marché du travail dans les dernières années. Je lui demanderais comment elle prévoit le cheminement de carrière des gens dans les 10 prochaines années comparativement aux carrières qu'on a vues qui duraient des vingtaines d'années. Comment elle voit ça dans le futur?
Je pense que le parcours carrière a effectivement beaucoup changé. On était beaucoup dans une situation d'attente, notamment vis-à-vis des ressources humaines. On attend les opportunités de promotion, d'évolution, de feedback. Et là, on est vraiment dans une démarche plus où on demande à la personne d'être pilote de son parcours professionnel, où on est vraiment en situation d'entrepreneuriat, même dans l'entreprise, de créer les opportunités de développement, créer son prochain poste. Et donc, en fait, on responsabilise l'employé et on lui demande « qu'est-ce que tu veux faire après ?» Et nous, on est au cœur de ça et je trouve ça très sain puisque ça fait se demander à la personne quelles sont tes motivations profondes, qu'est-ce que tu veux faire, trouver sa place en fait. Donc c'est la personne trouve sa place dans l'entreprise et on sort un petit peu du cadre. De plus en plus, les personnes ont l'opportunité de créer leur propre poste sur leurs forces et d'animer un petit peu autour de ça des opportunités. Donc on est, je le voyais moi aussi beaucoup dans des employeurs d'avant où il y avait vraiment cette situation d'attente et là non, on rebascule en disant qu'est-ce que tu veux pour la suite. Donc c'est vraiment intéressant.
Caroline, écoute, on aimerait ça savoir un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes s'il te plaît?
Oh là là, vaste question. D'accord, avec plaisir. Donc, moi je suis passionnée de ressources humaines et d'innovation et vraiment ma mission c'est de faire que chacun trouve son plein potentiel au travail et soit vraiment pleinement épanoui. Et je suis fascinée depuis longtemps par le lien entre les ressources humaines et la technologie et comment est-ce que la technologie peut optimiser les démarches RH dans l'entreprise. J'ai fait une école de commerce et c'est vrai que j'ai toujours voulu combiner avec la dominante en ressources humaines et vraiment tout ce qui était humain. Et découvrir aussi l'utilisation des nouvelles technologies. Donc ma passion, c'est de combiner ça et de trouver en fait les bons outils pour accompagner l'humain à différents niveaux dans l'entreprise. Et j'ai une spécificité puisque j'ai un papa qui est né à Montréal et moi j'ai grandi en France. J'ai toujours eu la France et le Canada dans le cœur et j'ai commencé ma carrière chez Alcan. En France, j'étais passionnée par l'entreprise, ses valeurs, c'était vraiment un beau domaine et mes premières missions étaient sur l'accompagnement du changement dans cette entreprise-là. Et j'ai fait un parcours ensuite en vraiment classique, je dirais, en ressources humaines, en développement, en formation et gestion des talents ensuite qui m'a amenée ici à Montréal avec Alcan aussi. Et au fur et à mesure, assez rapidement en fait, après mon arrivée, Rio Tinto a racheté Alcan. Ouais. Et c'était un bel exemple de changement et de transformation. Moi, j'adorais vraiment mes missions, mon travail. Il y avait beaucoup d'enjeux RH, c'était fascinant. Mais il y avait vraiment cette transformation permanente dans le décor. Et je voyais bien le monde qui s'interrogeait en disant « Est-ce que j'y vais pas, je m'interroge, c'est quoi l'adhésion ?» Je connais beaucoup de personnes autour de moi qui étaient dans ce cadre-là. Et avec mon voisin de bureau, Thomas, qui est mon associé aujourd'hui, on se disait « Il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour que le monde, par rapport à ce changement, cette transformation-là et où s'en va l'entreprise, puisse se dire « Ok, moi là-dedans, c'est quoi ma place? Comment ça me rejoint? C'est quoi moi mes aspirations? Quelle est ma façon de contribuer pour la suite? » Donc on a fait ce constat qui était assez flagrant et on se disait comment est-ce qu'on peut aider le monde dans l'entreprise à se positionner et plutôt que d'être en attente, à se demander qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les RH vont me positionner? J'attends? Est-ce que je fais juste tourner la montre? J'attends ma pension? Non, on voulait vraiment aider les gens à redevenir acteurs de leur propre carrière et de leur propre développement et d'avoir cet espace de confiance pour se reposer la question qu'ils avaient un petit peu oubliée. Moi, qu'est-ce qui me rendrait plus heureux pour la suite? Qu'est-ce que je veux faire finalement? C'est quoi ma prochaine étape? Comment est-ce que je peux contribuer à ça? Et c'est comme ça qu'est né toute fin 2013, en fait, ça a commencé, Innership. Et donc, c'était le début, ce constat, et donc l'envie d'offrir aux gens cet espace de confiance pour renouer avec leurs aspirations professionnelles profondes. Et ça, aujourd'hui, on se dit, et ça n'existait pas. Et c'est sûr que ce n'est pas sur un espace, un système intégré de gestion des talents, d'entreprise, checké par les RH. Ce n'est pas là que les gens ils vont dire leurs vraies aspirations. Il n'y a pas cet espace-là et les gens oublient un petit peu. Et quand on leur demandait, finalement, toi, qu'est-ce que tu voudrais vraiment faire? Les gens ne savaient pas trop parce qu'on a perdu l'habitude de se le demander ou de s'interroger sur le sujet.
Avec Innership, il y a différents parcours. Est-ce que tu peux, je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs en fait, mais est-ce que tu peux nous en mentionner un ou deux en fait, juste pour donner un petit peu une idée aux auditeurs de ce que c'est vraiment concrètement Innership?
Oui, bien sûr. Innership, en fait, une façon de garder un peu le mot en tête et de le définir, c'est de se dire leadership, tu mobilises les autres, innership, tu te mobilises toi-même. Mm-hmm. Et donc, on est sur vraiment des programmes mobilisateurs. Et plus concrètement, en fait, on conçoit avec nos clients qui sont des entreprises des parcours qui accompagnent les employés dans le changement. Et donc, ça peut être des changements organisationnels, ça peut être des changements d'étapes de carrière, ça peut être des changements de culture dans l'entreprise. Tout ce qui est changement, en fait, qui touche les employés, on conçoit des programmes spécifiques. En moyenne, c'est sur entre 3 à 6 mois, avec des temps collectifs, de l'accompagnement individuel, souvent par du coaching, et un accompagnement via un parcours numérique. Et donc, on a cette expérience-là qui combine ces trois aspects et on crée des parcours vraiment centrés sur l'accompagnement des employés, qui les mobilise et qui fait en sorte qu'ils font le lien entre eux, leurs enjeux, leurs aspirations et où s'en va l'entreprise. Et donc, dans ces programmes-là, il y a pas mal d'exemples, puisque pour chacun de nos clients, c'est des parcours spécifiques. Ça va de l'intégration dans un nouveau poste, donc on considère que c'est un changement de décor, changement d'environnement, changement de rôle. Il y a aussi tout ce qui est accompagnement du leadership, il y a tout ce qui est accompagner la gestion de projet, pilotage de projet, d'innovation notamment. On est très sollicité sur comment est-ce qu'on met en œuvre l'innovation dans l'entreprise, comment est-ce qu'on fait ce changement de posture. C'est aussi l'accompagnement des mouvements de carrière, des changements de poste, donc sur la mobilité, l'expatriation, départ ou retour. Même l'accompagnement vers la retraite, qui est un changement d'étape de carrière. On a un déploiement là qui va commencer sur le thème juste « moi et le changement » pour une équipe informatique dans un groupe qui est en transformation permanente. Comment est-ce qu'une équipe support peut se positionner en business partner un petit peu dans ce changement permanent? Donc les différents programmes qu'on a sont vraiment selon les besoins de nos clients, mais chaque fois centrés sur comment est-ce qu'on va accompagner l'expérience de nos employés dans le changement. De l'embauche à la retraite, je dirais, mais autour de l'accompagnement du changement.
C'est très intéressant. Aujourd'hui, on avait envie de faire le parallèle un peu entre le recrutement et une partie qu'on souvent, pas qui est négligée, mais qui est souvent prise en main par les ressources humaines par la suite. Souvent, on a tendance à faire une coupure, en fait, entre le recrutement et le jour 1 de l'employé, la nouvelle personne qui vient de commencer. Donc, comme vous avez des parcours, justement, sur l'accueil, l'intégration, on avait envie de faire un peu le parallèle entre le recrutement et l'accueil des employés. Comment tu vois ça, toi, dans le concret, en fait?
C'est drôle parce que à notre grande surprise, le parcours d'intégration, ça a été un de nos best-sellers. Donc, il est décliné à chaque fois pour nos différents clients et donc ça crée des expériences qui ne sont pas les mêmes d'un parcours à l'autre, mais qui nous a fait revisiter toutes les meilleures pratiques par rapport à l'intégration. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gros défis. L'intégration est rarement bien réalisé. Et là, justement, tu fais la différence entre l'accueil et l'intégration. Souvent, ça se réduit à l'accueil, mais il n'y a pas vraiment ce processus-là d'intégration dans la durée. Nous, la façon dont on... Enfin, moi, ce que j'ai constaté vraiment qui fonctionne bien, et là, tu parles justement de l'arrivée, enfin, jusqu'au jour 1 et tous les enjeux autour et de l'arrivée, on a le fait de pouvoir commencer son parcours d'intégration à partir du moment où on signe, en fait, où on rejoint l'entreprise. Parce qu'un des enjeux de l'intégration, c'est le trou noir qu'il peut y avoir entre je signe mon contrat et j'arrive.
Ouais.
Et les questions simples que les employés se posent, genre, comment je m'habille? Est-ce que j'amène mon lunch? Le stationnement, comment ça fonctionne? Et donc, les gens, c'est des questions simples, mais ils n'ont pas d'espace pour savoir par rapport à ça. Et en plus, leur interlocuteur a changé, puisqu'ils étaient en lien beaucoup avec le recruteur. Puis là, ils ne sont pas encore en lien avec leur manager. Il y a comme quelque chose qui manque un petit peu souvent autour de ce jour 1. Et quand on demande dans les études, ça ressort souvent que c'est le jour 1, c'est beaucoup d'angoisse. Et ce jour 1 et comment ça se déroule, c'est souvent pas très bien géré. Et puis la personne n'est pas encore à l'aise de dire s'il y a un malaise aussi. Et donc, nous, la façon dont on l'adresse dans le programme intégration, donc il y a... Dans l'expérience, il y a des temps collectifs, mais ça, ils viennent souvent plus tard. Il y a le parcours numérique, qui est vraiment l'espace personnel de la personne, et là, en l'occurrence, du nouvel employé, de l'arrivant. Donc, à partir du moment où la personne signe son contrat, elle est déjà en lien avec une équipe support. Donc, ça peut être avec un... Certaines entreprises choisissent que ce soit le manager, mais c'est souvent la bonne pratique. En fait, c'est plutôt que ce soit un parrain, une marraine, un buddy. Donc, la personne est déjà en lien. Elle est déjà amenée à cheminer avec des questions, par exemple, comme « On est ravis que tu rejoignes l'entreprise. Comment ça se passe pour toi? Comment tu te sens pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses avant ton jour 1? Comment est-ce que tu as prévu de te rendre au travail? Est-ce que tu... Et donc, il y a quelque chose d'assez simple qui permet à la personne de l'aider un petit peu à préparer son arrivée avec un format de questions, mais qui anime une discussion avec les personnes qui vont l'accompagner, donc typiquement par un marraine, buddy, etc.
Donc il fait le lien donc, aussi, c'est ça, entre le moment où tu as signé, puis là tu sais pas, tu es comme dans un trou noir, tu sais pas ce qui va arriver.
Ben oui, parce que t'es plus candidat, t'es pas encore employé.
Non, c'est ça.
C'est cette zone-là qui est effectivement, le côté parrain, marraine est vraiment intéressant, je trouve. Clairement.
Vraiment. Et ça permet d'avoir une longueur d'avance aussi sur les documents de référence. Souvent, on arrive le jour 1 et on se prend une tonne de documents à lire. Là, c'est pas du tout... la personne, en fait, a le temps de s'approprier un petit peu des choses, poser ses questions. Il y a une discussion qui se crée autour de ça, des valeurs de l'entreprise, de la culture, comment ça se passe. Donc, elle est préparée. Et je dirais, ce parcours-là, et donc ce début du... dans notre cas, de l'expérience numérique du candidat nouvel employé, permet non pas que la personne s'ajuste à l'entreprise avec un parcours d'intégration one size fits all, mais ça lui permet aussi de nommer, elle, ses préférences. C'est-à-dire que dans les questions qui sont posées, la discussion qui se crée, c'est comment vois-tu une première semaine réussie? Et certains, c'est d'avoir du temps pour digérer l'information. D'autres, c'est de rencontrer un maximum de personnes possibles. D'autres, ça va être de surtout pas luncher seul. Donc, ça va dépendre, en fait. Et une expérience réussie n'est pas la même pour une Geneviève, pour une Charlène, pour quelqu'un d'autre. Et donc, ça permet d'ajuster l'expérience d'intégration aussi en prenant compte des préférences du nouvel arrivant. Et ça aussi, c'est très apprécié, puisque je pense que le futur de l'intégration sur ce thème-là, c'est de s'ajuster aux préférences des candidats identifiés pour faciliter leur expérience.
C'est bien aussi parce que dans un autre épisode, en fait, du podcast, celui avec Erika, on parlait un peu de la responsabilisation du candidat ou de l'employé. Puis ça permet ça, en fait, parce que, je veux dire, moi, je pense pas que je me suis déjà posé ces questions-là là, avant de commencer un nouvel emploi. Mais c'est intéressant parce que après c'est plus clair pour toi aussi. Donc s'il y a des attentes qui sont pas remplies, quand tu commences, tu le sais, en fait. Tu sais d'où est-ce que ta frustration ou ton insécurité vient, en fait.
Oui, puis l'imputabilité est plus là aussi, parce que tu n'es pas en mode passif à t'asseoir sur une chaise le lundi matin, là, mettons. Tu as déjà eu tes to-do à faire, tu as déjà eu une part de responsabilisation claire et concrète. Donc, l'imputabilité de si ça se passe moins bien, je pense que le candidat est plus prêt à en prendre une partie que si il arrivait jour 1 avec aucun rapport, aucune question, aucun document, aucun lien, en fait, déjà établi. Ouais. Nous, on constate beaucoup aussi que cette période noire, là, ce flou, ça nous arrive régulièrement de faire face à des clients qui perdent des candidats dans cette zone-là. Et la raison, à chaque fois, c'est soit parce que le délai est trop long ou soit parce que, justement, le candidat n'a pas d'attachement émotif envers son futur employeur. Je pense que de rajouter cette étape-là va rajouter un engagement fort ou en tout cas un début d'engagement qui pourrait minimiser ce risque d'un candidat qui dit « Tu sais quoi, finalement, mon entreprise actuelle, peut-être que je vais rester dans ma zone de confort. » Je pense que ça, c'est effectivement un bon lien à faire, clairement.
Oui, et puis effectivement, il n'y a pas de meilleur moment pour responsabiliser l'employé que le premier jour, le day one, le moment où la personne commence. En fait, ça donne le ton pour la suite aussi. Donc, c'est vrai que là, ça la met en posture d'acteur. Et on l'a pas encore fait. Je pense à parce qu'on a beaucoup de clients, justement, sur le thème de l'intégration. On n'a pas encore intégré le recruteur comme accompagnant dans le parcours. Moi, j'ai la conviction que ça pourrait apporter parce que ça ferait un fil rouge encore plus dans l'expérience. Donc, j'ai hâte, là, j'ai des discussions qui s'en viennent pour 2020 avec des cabinets justement de recrutement et qui proposent d'inclure à leur service l'intégration aussi et comment est-ce qu'ils vont continuer de suivre les personnes tout au long. Et donc, je trouve ça intéressant. On verra un petit peu comment ça ouvre, mais oui, je suis d'accord.
Pour le faire chez Humanify, ce suivi-là des trois premiers mois, mettons qu'on peut avoir avec les candidats, ce que je trouve... sa matrice de voir à quel point les candidats sont beaucoup plus ouverts avec nous qu'ils ne le sont avec leur équipe interne RH. Mm-hmm. Fait que ça, je pense qu'effectivement, d'être en tant que gestionnaire RH ou recruteur, de se poser la question de comment je peux créer un lien de confiance aussi fort que si j'étais un intervenant externe, ça peut être une des problématiques 2020, qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui pensent à ça. On le dit souvent aux clients, à quel point j'aimerais ça que ça n'existe plus. Vous êtes capable de dire à mon client, ben, tu sais quoi, ce suivi-là, c'est important qu'Humanify le fasse parce qu'on a un lien particulier avec eux qu'ils n'ont pas avec vous. J'aimerais ça que ça n'existe plus, mais ça prend beaucoup, je pense, d'humilité. Ça prend beaucoup de casser la hiérarchie. Mm. Ça prend beaucoup de casser l'image hiérarchique des RH aussi. Mm. Ça prend beaucoup de la part des RH de laisser les recruteurs aussi interagir de manière un peu différente avec leurs candidats et de ne pas couper le lien. Souvent, le recruteur ou les RH qui ont transigé dans le processus de recrutement perdent le lien avec le candidat parce que le candidat se réfère à tout le temps à son gestionnaire. Mmh. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure option. Je ne pense pas non plus que le gestionnaire devrait perdre ce lien-là, évidemment. Mmh. Mais je pense qu'il y a peut-être une solution entre deux qui permettrait que... le candidat ne se sente pas plus à l'aise avec le partenaire externe qu'avec son équipe interne.
Oui, ça, ou avec le recruteur, en fait, parce que c'est ça. C'est que, tu sais, dans le fond, moi, une image plus précise, en fait, serait un peu que le recruteur vienne littéralement prendre la main du nouvel employé ou de la nouvelle employée et l'amène à son gestionnaire en disant, tu sais, voici, c'est voilà. Un peu un passage, c'est un rite de passage, en fait, mais on exagère un peu, mais pas tant, parce que je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup d'angoisse, puis en fait, c'est pas tout le monde qui est aussi qui est à l'aise de gérer ça. Il y a des candidats qui, pour eux, c'est pas très grave, en fait, puis qui sont très à l'aise avec l'improvisation et tout ça, puis que ça va, même s'ils savent pas ce qui les attend pour la suite, ils gèrent bien ça. Par contre, il y en a que ça angoisse beaucoup puis que ça stresse énormément. Donc, ça peut gâcher d'une certaine façon l'expérience d'intégration. Tantôt, tu faisais une différence entre accueil et intégration. C'est quoi la partie après, en fait, après l'accueil jour 1, finalement, puis là, bon, cette période-là, si le trou noir, l'espèce de trou noir est couvert, la personne commence, qu'est-ce qui se passe après de déterminant, en fait, pour que ça soit une histoire à succès?
Oui. Pour moi, l'accueil, on est vraiment sur les premières semaines et de familiariser un petit peu la personne avec l'environnement et la culture de l'entreprise. Quand je pense intégration, je parle vraiment de la... Souvent, c'est sur 3 mois minimum. Okay. Donc, il y a des entreprises qui font plus. C'est rare que ce soit moins que ça. Ça va de toute façon jusqu'à la fin de la période d'essai en général. Et donc, pour moi, quand je pense intégration, je pense vraiment à toute l'expérience jusqu'à la validation un petit peu du match entre le candidat et l'employé et l'employeur. Et donc ça, pour nous, là, on le met vraiment sur un minimum de 3 mois. Et on a un parcours qui est dessiné en 4 étapes avec vraiment le fait, les étapes dans le parcours numérique sont préparer l'arrivée. Donc, on est vraiment sur le début, l'accueil, l'arrivée. Donc, pour moi, c'est vraiment cette partie-là du parcours. Ensuite, on est découvrir mon environnement de travail, voir faire mon rôle, mon équipe, l'environnement, comment ça fonctionne, les parties prenantes, les gens avec qui je vais travailler. Ça inclut mon manager, ça inclut les supports que je vais avoir, en fait, dans l'organisation. Donc là, on est vraiment dans un état des lieux des ressources par rapport à mon poste. Et donc là, ça va être souvent sur... un mois, un petit peu moins, mais on est vraiment sur l'appropriation du rôle et de l'environnement.
Se familiariser un peu avec son nouvel environnement de travail.
Exactement.
Ses collègues.
Et ensuite, on est vraiment sur comment est-ce qu'on va ouvrir? C'est quoi les opportunités de développement? Comment est-ce que moi je vais grandir? Qu'est-ce que je vois là? Ça y est, j'ai fait l'état des lieux maintenant. Quelle stratégie je vais adopter pour réussir dans le poste? Comment est-ce que je vais avancer? De quoi j'ai besoin davantage? Donc là, et même, alors il y a cette partie-là, il y a aussi, c'est quoi mon regard sur comment ça se fait? Qu'est-ce que je vois avec mon œil neuf qui peut être amélioré? Et donc là, c'est ce qu'on appelle le rapport d'étonnement, qui est rarement fait, mais c'est comment est-ce qu'on valorise le nouveau regard du nouvel employé? Et on lui demande, ton œil est précieux, qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les choses qui te dérangent? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Donc, ce n'est pas seulement d'appropriation, on ne demande pas seulement à la personne de s'intégrer, mais on lui demande aussi un regard, de challenger un petit peu les pratiques et d'aider l'organisation à s'améliorer en valorisant cet œil neuf. Ça aussi, c'est une très bonne pratique. Donc, nous, on considère que c'est un petit peu la troisième étape, c'est stratégie de développement et ce rapport d'étonnement. Et ensuite, la quatrième étape serait vraiment, on a l'avance jusqu'à la performance. Donc là, on va chercher la pleine prise de poste et on va détecter tous les freins qui pourraient empêcher la personne d'être à son plein potentiel et on va avancer et se mettre en action là-dessus. Et donc là, on est plus sur la sécurisation, valider la socialisation dans l'entreprise aussi. Et donc, un parcours pour nous et la suite, ça se découpe selon ces quatre étapes-là, avec ce parcours numérique qui guide la personne, qui la responsabilise et avec les accompagnants, la meilleure équipe de support pour eux. Et on parlait tantôt du rôle du manager, du rôle du recruteur ou du RH. Et là, effectivement, à chaque fin de ces étapes-là, il y a un point d'étape avec le manager assez traditionnellement, avec une synthèse qui reprend un petit peu les enjeux, les actions, comment ça va. Donc ça simplifie aussi la job du gestionnaire parce que le processus piloté par l'employé avance, ça roule, c'est structuré, ça intègre aussi les meilleures pratiques de l'entreprise. Donc on amène un petit peu au bon moment dans le parcours, là, ça va être le temps de s'approprier un petit peu plus les valeurs de l'entreprise, la culture. Là, c'est plus le temps de zoomer sur les bonnes pratiques ou le fonctionnement, la gouvernance, comment on prend les décisions. Mmh. Et donc, à chaque fois, on amène au bon moment plutôt que le gros paquet. Première semaine, bam, tiens, digère ça et puis on en reparle. Non, là, on répartit tout au long des 3 mois l'expérience. Ça donne le temps à la personne de s'approprier un petit peu tout ça avec le bon support, les discussion aussi assez traditionnellement avec parrain, marraine, buddy. Et la personne aussi, ça c'est assez original, peut choisir d'impliquer ce qu'on appelle des compagnons. Donc elle peut choisir des personnes de son entourage, personnel ou professionnel, pour l'accompagner un petit peu dans l'expérience, dans l'expérience numérique. Et ça aussi, la personne ne se sent pas toute seule. Elle peut choisir d'impliquer des personnes de confiance aussi dans l'expérience pour faire des partages, vivre ça en fait avec des personnes avec qui elle souhaite partager. Et ça, parfois, c'est aussi des personnes qui, mettons, il va y avoir une journée d'intégration. Donc, le premier mois, il va y avoir une journée d'intégration. Donc là, on est vraiment sur un temps collectif organisé par l'entreprise. Mmh. Et puis, ça peut avoir différents formats. Là, je parle de journée, mais chez d'autres clients, ça va être une demi-journée ou autre. Et souvent, c'est les nouveaux qui s'invitent entre eux. Et donc, qui font un petit peu une équipe et qui s'entraident. Ils sont dans différents services. Et donc, ils nouent un petit peu leurs forces. Ils partagent un petit peu leurs constats pour s'entraider les uns les autres. Et ça marche très bien aussi. Mmh. Donc...
C'est intéressant aussi, puis c'est intéressant le fait que, admettons que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas un bon fit pour une raison X, Y, Z, malgré tout ça, bien, la personne va quand même rester ambassadeur de exact. Cette entreprise-là parce qu'elle va avoir eu une super expérience. Des fois, ça se peut que ça ne fonctionne juste pas pour une raison un peu hors de notre contrôle. Mais cela dit, l'expérience va rester positive quand même. Donc,
tout à fait.
Mais c'est un bon point que tu amènes parce que souvent, ce qu'on nous dit, c'est que les gens réalisent quand la personne quitte que ça n'allait pas. Là, tu détectes, en fait. Mm-hmm. Donc, tout au long de l'expérience, on va avoir le pouls de comment la personne se sent. Ouais. Et donc, je vous donnais des exemples de questions un petit peu simples là, du début, d'arrivée, mais au fur et à mesure, on est vraiment plus à mesurer comment ça se passe, ta socialisation avec l'équipe, comment tu te sens, c'est quoi ton adéquation aujourd'hui avec les valeurs de l'entreprise, comment ça résonne pour toi? C'est quoi l'exemple, toi, personnellement, que tu aimerais mettre de l'avant Et donc, on peut sentir s'il y a un écart. La personne est accompagnée, on en discute. Et donc, il n'y a pas cet effet surprise à la fin. La personne part et on ne l'a pas vu venir parce que la personne est accompagnée. Et même une bonne pratique récemment, c'est que, ça je trouve ça assez avant-gardiste, c'est d'inclure dans le parcours d'intégration, un parrain, marraine, buddy, mais aussi un coach. Et donc souvent, nous, il y a beaucoup dans nos parcours, la bonne pratique, c'est d'avoir un coach professionnel pour accompagner la mobilité, le développement du leadership, etc., ou un projet de changement ou d'innovation. Là, sur l'intégration, je trouve ça assez novateur parce qu'on va vraiment envoyer le message à l'employé. C'est pas pour corriger le coaching, c'est pas pour corriger quelque chose qui va pas. On est vraiment là en support pour t'accompagner, identifier un enjeu et être sûr que tu sois au meilleur de toi-même à la fin. Et donc là, j'ai trouvé ça intéressant, la combinaison parrain-marraine plus coach pour tous les nouveaux. Et après, il y a aussi des points avec le manager qui est aussi dans la boucle, mais dans un autre format.
Si des auditeurs veulent te poser des questions, sont intéressés à en savoir un peu plus, comment est-ce qu'on fait pour te contacter?
Avec plaisir, ça me fera plaisir d'échanger davantage. Une avenue assez simple, c'est d'aller voir finalement notre site internet. Donc c'est innership.com. Et puis n'hésitez pas à me contacter aussi directement. J'imagine que ce sera dans les détails du podcast. Donc oui. Avec plaisir, n'hésitez pas. J'ai hâte d'échanger avec vous.
Oui, on va l'inviter de toute façon en lien avec l'épisode. Merci beaucoup, Caroline. Merci à ceux qui nous écoutent de suivre nos épisodes avec passion et engagement. comme d'habitude, on va finir par la question que tu aimerais poser au prochain invité ou à la prochaine invitée. Qu'est-ce que ce serait?
Je disais un petit peu plus tôt que je trouvais ça dommage que les gens ne s'interrogent pas plus sur vraiment quelles sont tes aspirations profondes, qu'est-ce que tu veux faire, et donc on se pose tous cette question-là pour avancer. Alors c'est la question que j'aimerais poser à la prochaine personne, c'est quelles sont tes aspirations profondes, comment tu les partagerais et comment est-ce qu'on peut t'aider par rapport à ça.
Waouh, merci beaucoup Caroline.
Merci à vous.
Hiring Stories est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Google Play.